comme un verre entre amis, rien de mieux que le bar Grenade au coin de la rue Ontario-Est et Champlain. Le bar Grenade, une brasserie orientale tendance et branchée dans Ville-Marie. Avec nourriture d'inspiration asiatique, c'est l'endroit idéal pour vos 5 à 7 qui se terminent aux petites heures du matin. De plus, venez assister une fois par mois aux soirées luttes de choc.ca. Sans oublier de venir nous voir aux soirées Full Moon Party thaïlandaise lors des soirs de pleine lune. À quelques pas de la station Papineau, pour une ambiance explosive, le bar Grenade au 1603 rue Ontario-Est à Montréal.
Hey, ta dernière découverte artistique date de 2003.
Aïe, tant que ça change.
Moi, c'est Morin.
Nos pergailles.
On est porte-parole du 21e festival Vue sur la relève.
Découvre avant tout le monde les grands noms de demain.
Une programmation originale et audacieuse qui reflète les tendances de l'heure en art de la scène.
Du 5 au 16 avril, lâche ton ordinateur et viens voir des shows.
$12 pour 2 à 4 spectacles par soir.
Présenté par l'Auto-Québec en collaboration avec Québecor.
Visite vuesurlarelève.com.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca.
Les Panama Papers, pour une fois que c'est grâce aux médias et non pas la faute aux médias. Ouh, petit problème technique, mais c'est pas grave, on va enchaîner tout de suite. Bonjour à tous nos auditeurs, vous écoutez la photo média sur les ondes de choc.ca avec votre animateur Émilien Roscanou. Cette semaine à l'émission, nous allons aborder un sujet tout chaud sorti du four, les Panama Papers, ces révélations choc, et il n'y a pas de jeu de mots ici avec le nom de la station choc.ca, et qui, on fait vraiment le tour de l'espace médiatique cette semaine. Pour en parler, nous avons en studio nos trois chroniqueurs de la semaine, Charles Lemieux, Francis Huot et un nouveau venu, mais habitué de la radio, Tristan Lamour. Bonjour à tous.
Bonjour.
Salut.
Donc, on se dirige tout de suite vers Charles qui nous explique en quoi consiste exactement l'affaire des Panama Papers.
Oui, exact, Emilien. Alors voilà, en fait, il s'agit d'une fuite d'une firme juridique, Mossack Fonseca, basée à Panama, qui offrait ses services à des particuliers avec l'aide des banques, leur permettant d'acheter des compagnies écrans pour dissimuler leur argent. Une compagnie écran, c'est une fausse compagnie, une compagnie qui n'existe pas pour vrai, mais qui existe sur papier. La compagnie est créée dans un pays qui taxe très peu ou qui a une taxation avantageuse par rapport à celle du client. De cette façon, la personne qui cache son argent dans un paradis fiscal paie beaucoup moins d'impôts en transférant d'une certaine manière ses revenus à une compagnie fausse qui est à un autre nom. Le personnage principal dans The Wolf of Wall Street utilise d'ailleurs une compagnie du genre pour cacher ses actifs. L'affaire, c'est que cette méthode-là pour cacher son argent est légale, très peu éthique, mais légale. Mais voilà, Mossack Fonseca s'est fait dénoncer par un lanceur d'alerte, toujours inconnu pour l'instant, ce qui a réussi à subtiliser à l'entreprise plus de 40 ans de données entre les années 70 et le printemps 2016.
Ce qui est vraiment une fuite de documents gigantesque.
Oui, effectivement, on parle de 11,5 millions de documents qui ont été récupérés et donnés à un journal allemand, Süddeutsche Zeitung, désolé pour mon allemand, qui lui-même a refilé cet immense paquet de données au Consortium international des journalistes d'enquête, qui a l'habitude de grandes enquêtes sur la fraude et qui compte plusieurs journalistes à travers différents pays. 11,5 millions de documents, c'est 2600 téraoctets de données. À des fins comparatives, ça représente 47 jours d'écoute sur Netflix sans arrêt en HD.
Merci pour la belle comparaison.
Ça fait plaisir. Bien évidemment, c'est la plus grosse fuite de données de l'histoire.
On le comprend. Mais quel est le contenu de ces données-là?
Bon, je vais faire un bref résumé. On parle de quelques 5 millions d'emails, 3 millions de fichiers de type Excel, donc des tableaux de données, un peu plus de 2 millions de PDF, 1 million d'images, des documents textes et autres. C'est beaucoup de données, c'est pour ça que les médias sortent des informations chaque jour depuis à peu près une semaine, puisqu'ils n'ont pas eu le temps encore d'éplucher tous les documents. Heureusement, le consortium qui travaille sur le dossier a créé une espèce de moteur de recherche pour faciliter le travail de recherche des journalistes. Là où ça devient grave, parce que pour l'instant, vous vous dites probablement « ouin ouin, des paradis fiscaux, on le sait bien, tout le monde riche en a », l'affaire, c'est que les papiers panaméens, eh bien, ça a éclaboussé du monde bien important. On parle de gens vraiment importants, genre des premiers ministres et des présidents.
C'est pas rien.
C'est pas rien. Notamment le président, en fait, de l'Argentine, celui de l'Islande, qui a d'ailleurs démissionné suite à l'apparition de cette nouvelle, le roi d'Arabie Saoudite, le président de l'Ukraine, mais aussi le frère du président chinois, des amis proches de Vladimir Poutine, le père du premier ministre britannique David Cameron, les cousins de Bachar al-Assad, et j'en passe plus. plusieurs, je pense qu'on va vous mettre le lien sur Facebook.
Ce serait gentil.
Ça va faire plaisir. Là où le côté peu éthique des paradis fiscaux devient plus évident, c'est lorsqu'un pays qui a souffert de la crise économique et qui applique des mesures d'austérité comme l'Argentine a un président qui évite le fisc. C'est très bof.
Mais ces révélations-là seraient que la pointe de l'iceberg.
Évidemment, il reste plusieurs personnes qui n'ont pas encore été exposées. Selon le Guardian, plus de 200 000 fausses sociétés auraient été créées par Mossack Fonseca.
Mais Charles, une question qui revient souvent, pourquoi aucun Canadien ou États-Unien a encore été accusé?
C'est bien vrai, pour l'instant, aucun États-Unien ou Canadien ne sont sur le banc des accusés, sauf Anthony Merchant, le mari d'une sénatrice au Saskatchewan.
Ah, le Sénat.
Louis T. a d'ailleurs fait une publication sur le sujet sur Facebook lundi en disant, et je cite, « Le Québec n'a même pas de gens assez riches pour être dans le scandale du Panama Papers. Encore un échec du modèle québécois ça avec un petit bonhomme sourire. »
Ça sonne Radio de Québec.
Exact. La raison serait en fait que le Panama et les États-Unis et aussi le Canada ont un traité de libre-échange, le Panama Free Trade Agreement. Et à cause de ce traité, le Panama doit déclarer aux États-Unis et au Canada par la même occasion les revenus des citoyens états-uniens et canadiens sur son territoire. Ce n'est donc pas avantageux pour un citoyen de l'Amérique du Nord de fuir le fisc au Panama. Mais il y a plein d'autres paradis fiscaux où tu peux cacher ton argent. Il y a également moins de journalistes états-uniens et canadiens dans le consortium que de journalistes européens, ce qui ralentit la sortie de données.
Mais merci beaucoup, Charles, pour avoir fait le tour de la situation avec nous.
Ça fait plaisir.
Donc maintenant, comme nous le disait Charles, l'affaire des Panama Papers n'aurait pas pu être rendue publique sans qu'un lanceur d'alerte contacte les médias. Francis, tu vas nous parler de ces fameux whistleblowers. Donc, quelle a été l'implication des lanceurs d'alerte dans les Panama Papers?
L'importance des lanceurs d'alerte a été majeure dans la divulgation de ces informations-là par le Consortium international des journalistes d'investigation qui est à l'origine de cette fuite. En fait, sans lanceurs d'alerte, on n'aurait probablement jamais pu avoir accès à toute l'information qui a été dévoilée par le consortium. François Hollande, le président français, a d'ailleurs souligné l'importance du travail des lanceurs d'alerte en affirmant que, et je cite, « C'est grâce à un lanceur d'alerte que nous avons maintenant ces informations. Ces lanceurs d'alerte font un travail utile pour la communauté internationale. Ils prennent des risques, ils doivent être protégés. » Permettez-moi d'être un peu sceptique à propos du vrai sentiment de Hollande par rapport à cette fuite-là.
Oui, on l'est tous.
Edward Snowden, le lanceur d'alerte américain qui a révélé plusieurs secrets de la NSA sur les services de renseignement américains, a d'ailleurs souligné l'hypocrisie du président français en rétorquant sur Twitter avec un laconique « vraiment ». Il faut savoir que Snowden avait demandé en 2013 l'asile à la France, mais que ça lui avait été refusé. Donc la France en a pas vraiment fait beaucoup pour protéger Snowden en tant que lanceur d'alerte.
Mais c'est quoi exactement un lanceur d'alerte? On entend souvent l'expression dans les médias depuis quelques jours. Peux-tu nous expliquer un peu, nous démystifier un peu le terme?
Oui, en fait, c'est assez simple. Un lanceur d'alerte, c'est une personne qui dénonce ou qui alerte tout simplement les médias à propos d'une quelconque situation. Donc dans le cas qui nous intéresse, la personne qui a fourni les 2,6 téraoctets de données au journal allemand, là j'essaie de prononcer le nom du journal, Süddeutsche Zeitung.
Süddeutsche Zeitung.
Oh, t'es meilleur que moi,
Emilie. C'est difficile, l'allemand, c'est difficile.
Cette personne-là est un lanceur d'alerte. Donc, c'est-à-dire qu'elle a, comme son appellation l'indique, lancé l'alerte. Donc, alerter les médias d'une situation qui méritait d'être rendue publique, selon lui.
Et comme tu l'as mentionné tout à l'heure, Francis, Edward Snowden, c'est un bon exemple de lanceur d'alerte, mais il doit toutefois quand même se cacher en Russie parce que à cause de son inculpation en 2013 par le gouvernement américain pour espionnage, vol et utilisation illégale de biens gouvernementaux, il doit absolument se cacher. Les lanceurs d'alerte, est-ce qu'ils sont protégés?
Tous les chefs d'État démocratiques vont dire qu'il est absolument primordial de protéger les lanceurs d'alerte. Vont se dire que le whistleblowing est un pilier de notre démocratie. Effectivement, personne n'est contre la vertu. Mais dans les faits, la protection des lanceurs d'alerte est inexistante presque partout dans le monde. Il y a quand même quelques pays qui font exception, notamment la France, la Belgique, la Suède et 33 États américains. D'ailleurs, le 30 mars, il y a à peine quelques jours, la France présentait une loi visant à protéger les lanceurs d'alerte. C'est en fait une loi qui vise à lutter contre la corruption, mais qui intègre certaines dispositions servant à protéger les whistleblowers. Le ministre français des Finances, Michel Sapin, affirme que le but est non seulement d'offrir une protection juridique aux lanceurs d'alerte français, mais également d'assumer leurs frais juridiques. Le but, c'est donc d'inciter les lanceurs d'alerte potentiels à passer à l'action.
Mais Francis, comment faire pour savoir si on peut se fier à ces lanceurs d'alerte? Comment s'assurer de leur crédibilité?
il n'existe pas de façon infaillible de savoir si un lanceur d'alerte dit la vérité. Mais dans le cas qui nous intéresse, je pense que les journalistes du Consortium international des journalistes d'investigation qui ont analysé l'information qui leur a été fournie ont fait leur devoir. Ils semblent s'être assurés que l'information est véridique et fiable. Il existe quand même un exemple connu d'une situation où un lanceur d'alerte a fourni de l'information erronée. C'est le Plamegate. Il s'agit en fait de Judith Miller, qui était une journaliste célèbre du New York Times, qui était bien branchée à la Maison-Blanche. À cette époque-là, un débat faisait rage aux États-Unis. On parle de 2003. Un débat faisait rage aux États-Unis à savoir si le pays s'engagerait dans un conflit en Irak ou non. Miller a transmis de l'information confidentielle qui lui a été fournie par la Maison-Blanche par rapport à des armes de destruction massive, notamment que possédait l'Irak. L'information avait ensuite été relayée dans le New York Times. À l'époque de la publication de la nouvelle, Miller passe pour une véritable héroïne et elle est même citée à procès. Elle refuse de dévoiler ses sources puis elle finit par passer 8 mois en prison. On a su plus tard que Judith Miller avait été manipulée par la Maison-Blanche à des fins de propagande pour convaincre la population américaine d'appuyer une guerre en Irak.
Donc, même s'ils sont essentiels à notre démocratie, il faut toujours être prudent avec les whistleblowers.
Effectivement.
Merci beaucoup, Francis. Maintenant, on va se quitter en chanson avec Money de Suicide Songs. Vous aurez compris que c'était la chanson I'm Not Here de Money sur l'album Suicide Songs. Donc, de retour à choc.ca, votre animateur Émilien Roscanou, toujours à la faute aux médias. Maintenant, on va se diriger vers Tristan, notre nouveau venu, qui s'intéresse aux réactions des groupes sociaux dans l'affaire des Panama Papers.
Tout à fait. Alors, moi, mon champ d'intérêt et mon champ d'études, c'est les mouvements sociaux, les mobilisations populaires. Et dans le cas des Panama Papers, ou dans les autres affaires de ce genre, par exemple les affaires Madoff aux États-Unis ou l'affaire Kerviel en France, on peut lire, voir et entendre beaucoup d'indignation dans les médias, mais aussi sur les réseaux sociaux. Dans d'autres cas, dans d'autres affaires, des affaires criminelles, prenons l'exemple extrême des attentats de Bruxelles ou de Paris, immédiatement après la colère et l'indignation, il y a des marches, des rassemblements spontanés qui ont lieu, souvent dans des places symboliques. Par la suite, des rassemblements plus officiels sont éventuellement organisés. Pourtant, voilà, dans les cas de scandales financiers, ou même dans les cas de crimes financiers avérés, les réactions populaires ne dépassent pas le cap de l'indignation. Je me suis donc posé la question, pourquoi le monde s'indigne, mais ne réagit pas? Plusieurs personnalités se sont posées la même question ces derniers jours, on peut penser par exemple à Alain Deneau sur les ondes de Radio-Canada. Le premier élément de réponse à cette question, c'est que ces faits-là sont très diffus, ce ne sont pas les premiers ni les derniers d'ailleurs, et on a même parlé dans certains médias d'un non-événement.
On peut donc se demander à quel point ces faits dérangent les gens.
Alors j'ai cherché un petit peu sur ce que disait la criminologie et la science politique à ce sujet, dans un ouvrage écrit très proche d'ici, intitulé « Une typologie des crimes motivés par l'appât du gain » de Tom Naylor, qui est professeur à l'Université McGill. J'ai trouvé un élément de réponse assez intéressant. Selon lui, on ne sait pas bien définir les crimes économiques, parce qu'ils ne rentrent pas dans des catégories claires du droit, qui ne sont donc, et que donc, voilà, ce sont donc des causes plus faciles à défendre par des avocats, des avocates. En fait, on va peu ou pas en prison pour des crimes d'ordre financier, à l'exception bien sûr de cas extrêmes comme l'affaire Madoff. D'autre part, les institutions financières, qui sont des piliers de l'économie, on envisage assez difficilement leur démantèlement. Et enfin, il semble exister un genre de fascination pour les crimes de nature économique, si on en croit les nombreux films, par exemple, qui sont sortis sur des banquiers ou des courtiers. Je pense à Ma part du gâteau en France ou aux États-Unis, Le loup de Wall Street ou encore le célèbre Wall Street. Donc on s'indigne, mais dans le fond, on les envie, ces criminels, ce qui n'est pas le cas avec les autres formes de criminalité.
Il y a pourtant des exceptions. On peut penser au cas de l'Islande, où il y a quand même eu une réaction très vive de la population.
Tout à fait, la réaction a été vive en Islande. Les Islandais se sont réunis pour prendre la rue en début de semaine. En fait, dans ce cas-là, qui est une exception, ça n'est pas vraiment une surprise. Si on se rappelle la crise économique de 2008, qui a été vécue comme un traumatisme en Islande. Pour contextualiser, l'Islande, pays insulaire de 320 000 habitants environ, avait une économie alors basée sur deux pans d'activité, les activités bancaires et la pêche. En 2008, les deux tombent à l'eau, non, c'est pas très drôle.
Très beau jeu de mots.
Il y a eu donc un mouvement social de plusieurs mois qui a réuni plusieurs milliers de personnes. L'Islande, c'est d'ailleurs un des rares pays où la justice a condamné à des peines de prison ferme trois dirigeants de banques. Les Islandais et Islandaises gardent donc une certaine réactivité sur les questions liées aux crimes financiers. Alors, ils pensaient en avoir terminé avec l'opacité, mais à l'annonce de cette fuite d'informations, on découvre que le Premier ministre islandais possède une société offshore aux îles Vierges britanniques et il fait donc possiblement de l'évasion fiscale. Les Islandais, qui restent donc très mobilisés sur la question de la redevabilité des politiciens, se sont réunis en masse dans les rues de Reykjavik. On parle d'une manifestation qui aurait réuni entre 8000 personnes selon la police et 22000 selon les organisateurs. Ça, c'est considérable, ça représente au-delà de 7% de la population.
Oui, puis on avait fait le calcul, si c'était l'équivalent au Québec, ce serait comme 250 000 à 500 000 personnes dans les rues de Montréal.
Exact. L'ampleur de la manifestation a d'ailleurs, comme tu l'as dit, forcé le Premier ministre à se mettre en retrait, puis finalement à annoncer sa démission. Et enfin, le gouvernement a promis des élections anticipées en automne. On peut donc dire que cette réaction particulière est une question de contexte, un contexte qui prépare le terrain à une mobilisation. On peut aussi prendre l'exemple du Brésil, qui avait un contexte favorable, qui couvre actuellement une crise politique et des mobilisations de rue d'ampleur après l'annonce d'une possible corruption de l'ancien président Lula da Silva. Mais ceci est une autre histoire.
Un dossier à suivre donc. Merci beaucoup Tristan. « de retour à la faute aux médias, troisième et dernier segment de l'émission. Nous allons entamer maintenant une petite discussion sur les Panama Papers, mais aussi sur la question de redevabilité et aussi on va parler des mouvements qui sont tannés de payer au Québec. Donc, c'est bientôt la date limite pour faire nos impôts, le 30 avril. J'espère que vous les avez tous déjà fait à la maison ou que vous êtes en train d'y travailler.
Certainement.
Quand on voit plusieurs vedettes frauder comme ça le fisc, quel impact est-ce que ça peut avoir sur les simples citoyens face à leurs impôts? Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben moi, je me dis que, tu sais, en tant que simple citoyen, si j'avais assez d'argent pour pouvoir faire de l'évasion fiscale, c'est sûr que je le ferais. Mais pour la plupart des gens, je pense que c'est juste une possibilité qui est inexistante. Dans le fond, personne n'a assez d'argent pour pouvoir la placer au Panama. Donc, je doute un peu des impacts.
Moi, contrairement à Francis, je suis quelqu'un d'honnête et avoir beaucoup d'argent, je ferais quand même mes impôts.
Ben écoute, tu serais bien le seul, Charles, quand on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui évitent comme ça le fisc, que ce soit des banquiers, des grands dirigeants d'entreprises ou même des entreprises en tant que telles qui ont des compagnies outre-mer.
Ouais, mais si t'as assez d'argent pour aller placer de l'argent au Panama puis éviter le fisc, ben t'es mieux de déménager dans des États où il y a moins d'impôts, comme genre au Delaware aux États-Unis où que le taux d'imposition est extrêmement bas. Puis dans ce cas-là, tu vas être satisfait avec ton très peu de services sociaux puis ton filet social inexistant, mais tu vas peu payer d'impôts, ça va être nice.
C'est clair. J'aimerais ça vous entendre sur les gouvernements internationaux qui ont condamné ces scandales-là avec le fisc. Puis là, le président Hollande, on l'a dit plutôt à l'émission, qui a rappelé l'importance des lanceurs d'alerte. Mais cette espèce d'hypocrisie-là face à Edward Snowden, face aux lanceurs d'alerte en général, j'aimerais ça vous entendre réagir là-dessus.
Ben, effectivement, c'est pas surprenant de les entendre dire que les lanceurs d'alerte sont tellement importants. C'est un pilier de notre démocratie. On a entendu plein de chefs d'État dire ça. Je pense que Trudeau, cette semaine, a embarqué dans la parade. Mais, tu sais, personne n'est contre la vertu, comme je l'ai dit tantôt dans ma chronique. Puis, tous les chefs d'État félicite les lanceurs d'alerte, mais quand vient le temps d'agir, il n'y a presque aucun pays qui protège juridiquement les lanceurs d'alerte. Puis, c'est ça. Snowden en est un très bon exemple.
Petite parenthèse là-dessus. D'ailleurs, il y a Québec solidaire qui travaille sur un projet pour protéger juridiquement les lanceurs d'alerte. Vous irez voir ça.
Mais je pense que c'est compliqué de parler d'hypocrisie parce qu'il ne faut pas oublier que gouverner, c'est aussi des relations internationales. Puis on peut dire ce qu'on veut, mais on ne fait pas ce qu'on veut.
Non, c'est certain.
C'est vrai.
Sans toutefois protéger ou prendre sur soi ce qui a été dit, je ne pense pas que ce soit de l'hypocrisie, malheureusement. Voilà. Les politiciens ont aussi des convictions, mais les mettre en place, c'est plus difficile.
Oui, oui,
non, c'est sûr, dans le contexte du pouvoir, c'est pas la même chose non plus que dans le contexte journalistique ou dans le contexte de la simple critique de ces événements-là. Mais j'aimerais savoir, vous, qu'est-ce que vous pensez également? Il y a la population qui s'est soulevée dans l'affaire des Panama Papers en Islande. Est-ce que vous pensez que c'est un mouvement qui pourrait prendre de l'ampleur ou, les populations risquent de rester un peu stoïques par rapport à ça?
Ben, moi, de mon bord, je pense que non, que c'est, dans le cas de l'Islande, c'est effectivement populaire. Mais dans les autres pays, alors je parlerai plutôt des pays occidentaux, on a déjà eu ces genres de soulèvements-là, mais en fait, ils sont le fait de gens qui sont déjà militants. Je parle du mouvement Occupy, du mouvement Indignez-vous, les indignés en France, en Espagne, etc. Je crois pas qu'il y ait un soulèvement réellement populaire. Ça reste la gauche traditionnelle.
Donc l'affaire des Panama Papers pourrait quand même être réutilisée par ces mouvements sociaux-là qui sont déjà préexistants, mais ne lancerait pas de nouveaux mouvements en soi d'indignation.
Oui, à mon sens.
Surtout que ce n'est pas la première révélation de scandale de paradis fiscaux qui survient. Là. Il y en a eu d'autres par le passé.
Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a le Parti conservateur du Québec qui a d'ailleurs écrit sur le sujet sur Facebook. Ils ont dit que s'il y avait des paradis fiscaux, ça voulait dire qu'il y avait aussi des enfers fiscaux.
Comme le Québec, c'est un enfer fiscal
incroyable.
C'est
pas très clair ce qu'ils voulaient dire par là, mais je pense qu'ils essayaient d'insinuer qu'au Québec, on vit dans un enfer fiscal.
Non, mais je pense que ce qu'ils veulent dire, c'est que tous les États où on paye de l'impôt, c'est des enfers fiscaux. Parce que...
Évidemment.
Évidemment, dans un monde idéal, on ne paierait pas du tout d'impôts et redistribuerait pas du tout la richesse. Ce serait catastrophique. Si on continue de redistribuer comme ça la richesse, écoutez, On s'en va vers le mur, droit vers le mur, droit dans un mur.
Clairement.
Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette discussion et cette émission de La Faute aux médias. Je refais un tour de table. Donc, Charles Lemieux, Francis Huot et Tristan Lamour étaient nos chroniqueurs aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci, bien.
Plaisir.
Donc, j'espère que vous avez aimé l'émission. Encore une fois, c'était La Faute aux médias sur les ondes de choc.ca. Soyez de retour avec nous 17h jeudi prochain pour une autre émission. Et on se laisse en chanson avec Sometimes Accidentally de The Goon Sax.
But I can't stay. I'm sitting here with the pain. Say I'm going out, but not going out the same way. I'm in the mega bicycle. Woke up in the hood, I ain't recognized. I saw a weird looking cop and I said goodbye. Woke up around and got a little bit of exercise. Yeah, everything was overblown. Woke up first down and it's gold to go. I'm in my zone, you know, somebody asked to collab and I told him no, cause I won't enjoy. I told the school loan people I was unemployed and they believe me. This blouse was cool again, he did the right blue when I found cerulean. Woke up without a hangover. That burrito worked my stomach, my head and my teeth don't hurt. I didn't buy